Vous écoutez, on lit pour vous.
Les poissons des rivières gavés de médicaments. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 17 juin 2024 dans La Presse. Des poissons qui changent de sexe ou qui ont moins peur face aux prédateurs. Les rivières sont si polluées partout dans le monde que l'on peut parfois voir l'effet direct de certains médicaments sur les espèces. Une équipe internationale de chercheurs tire la sonnette d'alarme et appelle à développer des solutions de rechange plus vertes. Pilules contraceptives, antidépresseurs, antibiotiques, médicaments anticancéreux, drogues. La liste des médicaments que l'on trouve dans les rivières est longue et à des concentrations loin d'être négligeables. Une étude a révélé en 2021 que sur plus de 1000 échantillons prélevés dans des rivières d'une centaine de pays, 43 % montraient la présence d'au moins un médicament dont la concentration était considérée comme préoccupante pour les écosystèmes. Les médicaments les plus fréquemment trouvés étaient la carbamazépine, un médicament utilisé pour traiter l'épilepsie, la metformine, un médicament contre le diabète de type 2, et la caféine. De lourdes conséquences pour les écosystèmes. Dans un article publié le 5 juin 2024 dans Nature Sustainability, une équipe internationale de chercheurs tire la sonnette d'alarme. Quand on pense à la pollution de l'eau, on visualise les marées noires, les sacs plastiques dans l'océan. Mais la pollution chimique, on ne la voit pas, illustre Michael Bertram, l'un des auteurs qui est également professeur à l'Université suédoise des sciences agricoles. De nombreuses études ont rapporté que des poissons mâles en aval de sites où des eaux usées sont rejetées par les municipalités, avaient subi une féminisation de leurs organes reproducteurs due à la présence d'estrogènes dans celles-ci. Une autre a montré que des poissons exposés à des antidépresseurs perdaient leur réflexe de fuir ou de faire le mort face à un prédateur. Cela peut induire une chute draconienne de certaines populations et, par effet domino, les écosystèmes se retrouvent fortement perturbés. De la fiole à la rivière. Une première solution qui pourrait être envisagée serait d'améliorer le traitement des eaux usées. Car lorsqu'on avale un médicament, une grande partie n'est pas assimilée par le corps et se retrouve directement dans les toilettes. Or, bien souvent, les stations d'épuration d'eau ne sont pas équipés pour filtrer ces médicaments. Généralement, on ne retire que les solides avant que les eaux usées ne soient rejetées dans les cours d'eau, explique Michael Bertram. Et encore, selon un rapport de l'UNESCO de 2017, 80 % des eaux usées dans le monde sont relâchées sans même avoir été traitées au préalable. Le Parlement européen a d'ailleurs adopté, début avril, un texte imposant aux industries pharmaceutiques et cosmétiques de couvrir 80 % des coûts de modernisation des stations d'épuration pour éliminer les micropolluants des eaux usées, selon un principe de pollueur-payeur. Vers une chimie plus verte? Pour Michael Bertram, au-delà du traitement des eaux usées, l'industrie pharmaceutique devrait prendre le problème à sa source et se tourner vers des solutions plus durables. En effet, les médicaments actuellement offerts en pharmacie peuvent souvent avoir des effets sur les écosystèmes, et ce, même à de très faibles doses. On pourrait envisager des molécules plus vertes qui se dégraderaient rapidement une fois dans l'environnement, minimisant ainsi leur impact. Ces options de rechange pourraient être proposées en pharmacie, de la même façon qu'il existe aujourd'hui, en grande surface, des aliments sans OGM ou sans pesticides, par exemple. Un problème plus large que l'industrie pharmaceutique. Pour Valérie Langlois, professeure à l'Industrie nationale de la recherche scientifique, INRS, ce problème n'est pas nouveau, mais il va en s'aggravant. L'idée de la chimie verte est bonne, selon elle, mais nécessite du temps. Il ne faut pas juste aller dans des solutions de design moléculaire ou de traitement des eaux, affirme-t-elle. Elle indique que l'on pourrait, par exemple, chercher des solutions pour diminuer l'anxiété et, ainsi, limiter le nombre d'ordonnances. Le problème est même plus large que l'industrie pharmaceutique. On trouve, entre autres, des microplastiques, des PFAS et des pesticides dans les rivières. C'est une boîte de Pandore, soupire-t-elle. Il faudrait vraiment s'attaquer à tous les fronts à la fois. C'était Les poissons des rivières gavés de médicaments. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 17 juin 2024 dans La Presse.
Les pissenlits sont-ils si importants pour les abeilles? Un texte de Valérie Simard, paru le 8 mai 2024 dans La Presse. Laisser les pissenlits coloniser nos terrains au printemps aide-t-il vraiment les abeilles et autres insectes pollinisateurs? Chaque mois de mai, l'efficacité de mouvements comme No More May ou le défi pissenlit est remise en question sur les réseaux sociaux, dans des publications de blogs ou dans les médias. Des experts font le point. D'abord, qu'est-ce que le défi pissenlit? C'est une initiative québécoise inspirée du mouvement britannique No More May qui a été lancée en 2021 par les apiculteurs de miel et compagnie pour favoriser la santé des pollinisateurs et améliorer la biodiversité. Cela se traduit par le fait de retarder la tonte de son gazon au printemps pour, explique-t-on sur le site Internet du défi, permettre aux pollinisateurs de faire le plein de pollen et de nectar issus des pissenlits et autres fleurs. Il faut donc remiser notre tondeuse pendant tout le mois de mai? Pas nécessairement. Même si c'est ce que préconise le mouvement No More May, le défi pissenlit n'impose pas de durée, notamment parce que la période de floraison des pissenlits varie selon les régions du Québec. Une fois montés en graines, les fameux petits parachutes de soie, ils ne sont plus utiles aux pollinisateurs, on peut donc les couper. Puis-je vraiment sauver les abeilles en conservant les pissenlits sur mon terrain? Sauver est un bien grand mot. Pierre Giovenazzo, professeur à l'Université Laval et spécialiste des abeilles, rappelle que les plus grandes menaces envers les pollinisateurs sont l'étalement urbain, la déforestation et les pesticides. Or, leur offrir une source de nourriture au sortir de l'hiver peut certainement les aider à se développer, soutient-il. Au printemps, les abeilles s'alimentent beaucoup des fleurs des arbres, mais certaines espèces ne leur offrent que du pollen, contrairement aux pissenlits, qui contiennent aussi du nectar. Le nectar, c'est le carburant des abeilles, explique Pierre Giovenazzo. C'est une source de glucides dont les abeilles domestiques ont énormément besoin pour développer leurs colonies. Et des pissenlits. Il y en a tellement que les abeilles n'ont pas à dépenser beaucoup d'énergie pour s'alimenter. Il ajoute que, bien que le pollen des pissenlits ne soit pas riche en protéines, les abeilles ont d'autres sources vers lesquelles se tourner à cette période de l'année. Outre les abeilles domestiques, d'autres pollinisateurs bénéficient aussi de la présence de pissenlits, notamment les abeilles sauvages indigènes, abondantes en ville, et les bourdons. Dans un article publié sur le site du magazine Turf and Record, un botaniste du Fonds mondial pour la nature, WWF, affirme que le mouvement No More May n'est pas nécessairement utile en Amérique du Nord. Nous avons contacté Ryan Godfrey et ses propos sont un peu plus nuancés que ce que rapporte ce magazine qui se dit « au service de l'industrie canadienne de l'entretien des pelouses et des terrains ». En Ontario et au Québec, si vous laissez pousser votre pelouse, il est plus probable de voir apparaître des espèces introduites comme les pissenlits, les trèfles et d'autres plantes non indigènes qui ne fournissent pas autant de valeurs nutritives et d'habitat pour la faune et les pollinisateurs, expose celui qui œuvre pour WWF Canada. Il compare le pissenlit à un sac de chips. Mais si les chips nous fournissent assez d'énergie pour aller à l'épicerie, c'est au moins ça, non? Je ne dis pas que le No More May n'a aucune valeur, précise-t-il. C'est un pas dans la bonne direction. Mais les gens peuvent faire beaucoup plus. Guillaume Grégoire, spécialiste de l'amélioration des pratiques horticoles en milieu urbain et professeur à l'Université Laval, croit que la sensibilisation qu'amène ce type de campagne n'est pas à négliger. Un avis que partage le biologiste Claude Lavoie, auteur de « Pissenlit contre pelouse, une histoire d'amour, de haine et de tondeuse ». Parmi ceux qui laissent pousser des pissenlits en mai, il y en a qui vont faire des pas supplémentaires. « Il faut prendre les gens là où ils sont », affirmait-il en entrevue avec la presse le mois dernier. Quelles sont alors les meilleures façons d'aider les pollinisateurs à l'échelle citoyenne? Il y a plusieurs arbres qui ont des floraisons qui ne sont pas nécessairement spectaculaires, mais qui sont très utiles aux pollinisateurs, note Guillaume Grégoire. Je pense, entre autres, à l'érable à sucre et aux arbres à fruits comme les pommiers, pommetiers, etc. Parmi les autres actions qui peuvent être mises en place, réduire la fréquence de tonte tout l'été, aménager des plates-bandes fleuries sur son terrain, laisser certaines parcelles en friche, cesser l'utilisation de fertilisants et de pesticides et planter une variété de plantes et de fleurs indigènes comme le thym, serpolet, la gastache, l'astère et l'asclépiade qui aideront les pollinisateurs ayant des besoins spécifiques comme le papillon monarque. La diversité des espèces qui fréquenteront votre terrain pourrait alors vous surprendre. Dans une étude dont les résultats sont à paraître, Guillaume Grégoire et son équipe de recherche ont recensé 17 genres et 72 espèces d'abeilles ainsi que 12 genres et 16 espèces de syrphes sur des parcelles de gazon qui avaient été diversifiées. On a trouvé une plus grande diversité de pollinisateurs que ce à quoi on s'attendait. En savoir plus, source Défi Pissenlit. 155, nombre de villes du Québec qui ont participé au Défi Pissenlit en 2023. C'était « Les pissenlits sont-ils si importants pour les abeilles? » Un texte de Valérie Simard paru le 8 mai 2024 dans la presse.
La possession des lieux, un texte de Véronique Grenier, paru le 7 mai 2024 dans Le Devoir. On mesure mal à quel point une atmosphère égalitaire et pacifiée contribuerait à notre bonheur. On a du mal à comprendre l'importance, pour son propre confort mental, non seulement d'être soi-même bien logé, mais de savoir que les autres le sont, selon Mona Chollet de la revue Chez Soi. Qu'on soit dans une maison ou un appartement, qu'il nous appartienne ou pas, celui où on retourne, qu'on quitte en sachant qu'on y reviendra, est celui où se définit et se vit notre intimité, ce qui nous est privé. On y mange, dort, reçoit des amis, rit, pleure, aime, construit et conserve des souvenirs. Ça peut aussi être l'endroit dans lequel s'agitent nos hontes, nos désespoirs, nos isolements. On ne peut qu'espérer qu'il soit synonyme de sécurité, une sorte de rare certitude. non seulement avoir un toit au-dessus de sa tête, mais qu'il soit solide et un support adéquat contre, on m'excusera ce jeu de mots, les intempéries de la vie. Parce que s'y sentir fragile, précaire, implique un tremblement constant à l'intérieur de soi alors qu'il faut pouvoir se déposer sur son plancher, entre ses quatre murs, à l'abri. Les cas d'éviction forcée de locataires ont augmenté de 132% au Québec en 2023 par rapport aux données de 2022. Plusieurs indicateurs socio-économiques permettent cependant d'établir à plusieurs dizaines de milliers par année le nombre d'évictions forcées au Québec. Ce qui est très notable dans la dernière année, c'est que les rénovictions et les pressions indues, des tactiques qui sont illégales, ont progressé de façon beaucoup plus importante. Radio-Canada, 12 décembre 2023. Pression indue. Ce sont deux mots qui en contiennent plusieurs autres. Coupure de chauffage, l'hiver à répétition. Lettre d'huissier envoyée aux locataires pour tout et rien. Ne pas répondre aux appels et aux courriels lorsqu'il y a des problèmes dans l'appartement. Faire des rénovations bruyantes dans les aires communes pendant de très longues périodes. Sans s'assurer de la protection de la santé des locataires. Les menacer d'augmenter le loyer de manière disproportionnée et le faire. Envoyer des factures pour des réparations aux locataires alors qu'elles devraient être payées par le propriétaire. Essayer d'antagoniser les locataires d'un immeuble entre eux. Leur rappeler qu'ils ne sont pas chez eux, etc. C'est notamment ainsi qu'un tremblement est instauré, que l'inquiétude prend place, que revenir y être chez soi devient une préoccupation doublée de la peur constante d'en être dépossédé. Et aujourd'hui, tout particulièrement, de ne pas être en mesure de pouvoir se reloger décemment. Posséder, du latin possidere, être possesseur, lui-même composé à partir de potis, qui peut, puissant, et sédéré, être assis, demeuré. Dictionnaire de l'Académie française. Je me demande ce que voient les personnes qui possèdent les immeubles, les racines et la sécurité des gens. Peut-être que certaines d'entre elles comprennent mal leur offre de service. Peut-être faudrait-il leur expliquer que l'objet de leur transaction mensuelle ne peut se réduire qu'à des mètres carrés, des matériaux, un espace vide, qu'on ne peut faire violence et faire pression de manière indue sur la vie des gens, leur repos, leur calme. Le logement n'est pas un bien comme un autre. Au-delà des droits et obligations de la rentabilité, c'est un espace de sens, de refuge, de rituel, de lien. Et cela ne me semble pas pouvoir concorder avec le sentiment de toute puissance qui vient souvent avec le fait de posséder et qui terrasse la considération minimale envers autrui. Je possède, donc je peux, et je n'ai pas à tenir compte des besoins de qui que ce soit, sauf des miens. Ce « je » peut modifier ces lieux dans lesquels il ne vient presque jamais, alors qu'ils sont le « tous les jours » de plusieurs, dérangés sans s'en faire ni même s'en excuser. Prendre le soin de discuter, de sonder, de valider n'a pas à faire partie des attitudes à privilégier. Le locataire est réduit au même statut que l'objet logement. Peut-être a-t-il même moins de valeur puisqu'il peut être échangé, remplacé. On me dira que les locataires ont des droits, qu'ils sont rois et reines, que le système est fait pour elles, pour eux. Je dirai que je ne sais pas trop, qu'il ne faut pas sous-estimer la vulnérabilité dans laquelle on se trouve quand on craint les représailles, une augmentation des désagréments, les méandres du tribunal administratif du logement. Quand on ne sait pas où on pourrait aller, si ça sera mieux, mais peut-être pire. Je me demande, à quelle oreille faut-il parler pour que les Québécoises et les Québécois puissent habiter sans s'inquiéter? Petite note. Évidemment, les mots qui suivent ne valent pas pour toutes et tous. Il y a des propriétaires et des gestionnaires aux pratiques discutables et d'autres qui font preuve de bienveillance. Parler des uns n'omet pas l'existence des autres et ne nie pas le fait qu'il y ait des locataires difficiles. C'était « La possession des lieux », un texte de Véronique Grenier, paru le 7 mai 2024 dans Le Devoir.
Les jeunes devront apprendre à vendre leur salade, un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 12 mai 2024 dans La Presse. J'exagère un peu, mais dans les dernières années, il suffisait d'être en vie pour décrocher un poste. Un propriétaire de 3 Tim Hortons dans les Laurentides m'avait d'ailleurs raconté au printemps 2022 à quel point il avait diminué ses critères de sélection pour recruter du personnel. Si la personne connaît sa gauche et sa droite, on la prend. Malgré tout, il devait réduire ses heures d'ouverture. Les clients se cognaient le nez sur la porte en soirée et parfois même en plein jour, faute de travailleurs. On n'avait jamais vu ça. Des portes barrées chez Tim Hortons. Les automobilistes, habitués de fréquenter cette chaîne pour profiter de ses toilettes, pestaient. On voyait des affiches « Personnel recherché » partout au Québec. En désespoir de cause, les employeurs multipliaient les primes de toutes sortes et les stratégies de séduction. On allait même jusqu'à embaucher des enfants de 12 ou 13 ans. Exactement 2 ans plus tard, la situation est bien différente pour les jeunes, notamment les étudiants à la recherche d'un travail d'été. Statistique Canada a révélé vendredi qu'en avril, la plus forte hausse du taux de chômage a été enregistrée chez les 15-24 ans. Il s'établit désormais à 12,8 %, le niveau le plus élevé depuis l'été 2016, si on exclut les années pandémiques 2020 et 2021. Au Québec, c'est un peu mieux, à 9,5 %, mais c'est nettement plus élevé que le taux de chômage global de 5,1 %. Et surtout, c'est 3 points de plus qu'il y a un an. C'est donner laisse présager une nouvelle réalité pour les jeunes qui se chercheront un emploi d'été. En fait, certains sont déjà confrontés à la vraie vie. C'est le cas du fils travaillant et débrouillard de Caroline qui a déposé entre 50 et 60 CV à Laval. À 16 ans, il espérait décrocher rapidement un premier emploi. Avec tout ce que nous avons vu et lu sur la pénurie de main-d'œuvre dans les dernières années, nous croyons que ce serait facile pour lui. Tout le contraire. Il n'y a vraiment aucun intérêt des employeurs. La plupart du temps, son adolescent se fait répondre froidement « On a tout notre personnel » et certains commerces refusent carrément de prendre son CV. Caroline aimerait comprendre ce qui se passe et savoir ce qu'un jeune sans expérience peut faire s'il ne veut pas passer l'été à la maison, devant un écran. Ce récit n'a aucunement surpris la directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi, CJE, de Laval, Christiane Pichette. Elle constate tous les jours que les jeunes ont plus de difficultés à se trouver un emploi d'été. « C'est assez bizarre, dit-elle. Le ministère du Travail parle encore de pénurie de main-d'œuvre, mais dans les organismes en employabilité, ce n'est pas ça qu'on sent. On est revenu à notre achalandage d'avant la pandémie. Pour décrocher un boulot, les jeunes doivent désormais apprendre à se chercher un emploi avec un CV dans les mains et une bonne lettre de présentation. Il faut qu'ils se déplacent pour rencontrer les employeurs, passer des entrevues, vendre leur salade. Tout cela semble vraiment évident pour les personnes de ma génération qui rêvaient d'être choisies par McDonald's quand le taux de chômage des jeunes était de 20 %. Mais pour un étudiant de 18 ou 20 ans qui a toujours réussi à dénicher un emploi en scannant tout simplement un code QR avec son téléphone, un petit choc est à prévoir. Ceux qui ont besoin d'aide peuvent toujours se tourner vers les CJE, qui offre des ateliers gratuits et des trucs pour étoffer un CV en l'absence d'expérience de travail. Une autre mère m'a raconté que son fils de 16 ans, qui se cherchait un emploi d'été cool, est déjà en train de revoir ses critères, car ses recherches intensives ne mènent à rien. Il trouve injuste que son grand frère se soit fait embaucher en 15 minutes pour être moniteur dans un camp de jour en 2021, sans aucune expérience, alors qu'il avait 15 ans, et ensuite dans une épicerie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la situation change autant? Les commerces se sont habitués à avoir moins d'employés et certains ont rationalisé leurs opérations, répond Christiane Pichette. Un exemple parmi tant d'autres, bon nombre de restaurants sont fermés les lundis et mardis, d'autres sont fermés sur l'heure du midi. C'est sans compter le nombre accru de nouveaux arrivants et d'étudiants étrangers qui cherchent du boulot. La baisse de la consommation dans les restaurants et les magasins, en réaction à la hausse du coût de la vie, fait aussi partie de l'équation. Incapable de trouver du personnel pour le service, un restaurateur de Québec m'avait raconté il y a 2 ans qu'il envisageait sérieusement de fournir des iPads aux clients pour qu'ils passent leurs commandes. Sa mère, retraitée, était forcée de lui donner un coup de main. Cette année, les ventes ont tellement ralenti que ses besoins en main-d'œuvre ont fondu comme neige au soleil. De 2 ou 3 livreurs la fin de semaine, il est passé à 1 seul. « J'ai perdu 2200 clients depuis 1 an », relate Mathis Langevin, propriétaire de Kiran au Pizza. Dans le secteur de la vente au détail, le nombre de postes vacants est passé de 32 000 à 16 000 en 1 an, selon le Conseil québécois du commerce de détail. La pénurie n'est pas résorbée, mais les employeurs cherchent principalement des personnes qualifiées pour travailler en gérance, aux achats, aux ressources humaines, des emplois qui ne sont pas accessibles aux étudiants. Après 2 ou 3 années pendant lesquelles les jeunes avaient le gros bout du bâton et imposaient leurs exigences, le retour à l'équilibre s'opère. Bien des parents qui ont roulé des yeux devant ces caprices devront maintenant composer avec la déprime de leur progéniture, incapables de se trouver du travail. C'était « Les jeunes devront apprendre à vendre leur salade », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 12 mai 2024 dans la presse.